Bonjour tout le monde et bienvenue au Parc du Stade Olympique pour ce premier match de la saison locale du meilleur show en ville, l'Impact de Montréal. Mon nom c'est Jérémy Filosa, en compagnie de mon analyste pour le match aujourd'hui, Arcadio Marcuzzi. Salut Arcadio!
Salut Philo, bonjour chers amis.
Ça fait du bien de rentrer à la maison, ça fait du bien de jouer un premier match à Montréal. Ce sera un premier match devant ses partisans pour Rémi Garde, pour plusieurs nouveaux joueurs de l'Impact de Montréal aussi. Aujourd'hui, on aura un alignement assez particulier. Ça a été déjà dévoilé par le club et on va vous en parler dans quelques instants. Mais Arcadio, parlons tout de suite du match d'aujourd'hui et l'importance d'offrir une bonne performance aujourd'hui en espérant bien sûr une victoire, mais jouer un bon match, récolter des points parce que le Toronto FC n'est pas venu ici pour nous faire des cadeaux. D'ailleurs, on va vous parler de l'alignement partant tout à l'heure. Mis à part Vasquez, là, tous les gros canons y seront.
Oui, absolument. Jouer un bon match, donner une bonne performance, une performance de 90 minutes. Je pense que c'est le principal défi pour l'Impact de Montréal, qui nous a pas donné de très mauvais matchs lors de ces deux premières sorties de la saison, mais des performances incomplètes. Les deux premières demi de ces matchs-là, à Vancouver comme à Columbus, ont été très décevantes de la part de l'Impact, qui a su réagir en deuxième demi, mais malheureusement, ça n'a pas été assez pour accrocher des points. Aujourd'hui, on se doit de sortir fort. On est à la maison, on est devant un Toronto FC qui, oui, est amoindri avec certains joueurs qui ne sont pas là, dont Vasquez et Mavinga qui est blessé. Donc, de ce côté-là, il y a une opportunité. Toronto FC aussi, c'est seulement leur deuxième match MLS cette saison.
C'est vrai.
Mais c'est leur sixième match depuis un mois avec leur parcours en Ligue des champions. Donc, il y a certainement une fatigue accumulée que l'Impact de Montréal se doit certainement d'exploiter aujourd'hui.
Ben, en tout cas, écoutez, je pense que si on a à regarder laquelle des deux équipes est la plus motivée de sortir fort aujourd'hui, il faut que ce soit l'Impact de Montréal parce que tu joues un premier match à domicile contre ton rival. En plus, selon notre collègue Vincent Destouches, les deux acquisitions que l'on attend depuis quelques jours déjà seraient des choses faites. C'est ce qu'on nous dit. De toute façon, écoutez, c'était quand même assez clair. Là, les deux joueurs avaient déjà quitté leur équipe,
ils sont déjà voyagés vers Montréal. Ils sont à Montréal en ce moment. C'est une information qui se confirme, mais qui flottait depuis quelques jours.
Rudy Camacho et Alejandro Silva.
Voilà, c'est deux excellentes nouvelles pour l'Impact de Montréal. Évidemment, on connaît ce manque de profondeur de l'effectif montréalais qui lui a fait très mal, il faut le dire, en ce début de saison. Rémi Garde qui a eu beaucoup de déceptions dans ses tentatives de séduction de joueurs européens lors de la saison morte. Et on compense, là, on se rattrape tant bien que mal du côté de l'Impact de Montréal de ce côté-là. Et c'est deux signatures qui vont faire le plus grand bien, non seulement en termes de profondeur, mais c'est des signatures de qualité. On n'amène pas de la profondeur en ce moment. On amène des joueurs de premier plan. Et c'est ce qui risque de ressortir de ces deux arrivées, qu'on risque de présenter officiellement au cours de la semaine prochaine, j'imagine, du côté de l'Impact de Montréal.
Oui, d'ailleurs, j'ai eu la chance de parler à Adam Brass, le directeur technique, un peu plus tôt cette semaine, qui m'a dit « On vise le match à Seattle pour l'entrée en scène de ces deux nouveaux joueurs. » Donc, le moment est quand même bien choisi, étant donné qu'on a deux semaines avant le prochain match. Il y aura une pause internationale la semaine prochaine. Donc, Rémi Garde va pouvoir travailler avec ces deux gars-là. Ils vont apprendre à connaître leurs coéquipiers, s'entraîner quelques matchs. Et j'ai aucun doute que dans deux semaines à Seattle, ces gars-là vont être disponibles pour Rémi Garde. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et ce sont deux joueurs qui arrivent ici quand même dans une excellente forme physique, puisqu'ils étaient déjà en action avec leurs équipes respectives. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on va avoir une entrevue avec Richard Legendre dans une dizaine de minutes qu'on va vous présenter, que j'ai eu la chance d'enregistrer un peu plus tôt ce matin, ici même, au Stade olympique. Arcadio, je veux parler immédiatement du 11 partant de l'Impact, parce que je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont dans l'auto, qui se dirigent vers le stade et qui sont curieux de savoir qui ils vont voir sur le terrain ici aujourd'hui. C'est particulier parce que il y a des gars qui vont jouer à des positions qu'on ne les a pas vus jouer jusqu'à maintenant, ni en saison régulière, ni en match préparatoire. Donc, allons-y rapidement, puis on va vous les répéter là, avant le début du match. Evan Bush devant le filet, ça, il n'y a pas de problème là. Rod Fanny, le nouveau venu, va obtenir un départ et lui va jouer sur le flanc droit en défensive. On le sait qu'il peut jouer sur le flanc, il peut jouer aussi dans l'axe central. On ne touchera pas à la charnière. Victor Cabrera et Yuka Raitala seront là. Du côté gauche, Daniel Lovitz, qui est deuxième meilleur passeur de la Ligue présentement, avec deux passes décisives Il retrouve son poste, bien sûr. Samuel Piette devant les défenseurs en plein centre. Il aura à ses côtés Saphir Taider, Ken Kolicki, un troisième départ. Ouais. Et maintenant, Michael Petrasso, qui a joué en défensive depuis le début du camp et les deux premiers matchs de l'année, se retrouve à l'aile droite, en attaque. Piatti à gauche, ça, il n'y a pas de problème. Et Jason Vargas en pointe aujourd'hui. Ouais. Étant donné que Matteo Mancosu, clairement, le petit pépin, c'est pas réglé. Là, cette semaine, il a raté quelques entraînements. Dominic Oduro va être sur le banc. Et Anthony Jackson-Amel aussi qui retrouve... je pensais pas qu'elle allait être habillée pour le match d'aujourd'hui, mais il est là. Donc, écoute, on s'organise un peu comme on peut, ouais, pour Rémi Garde. Mais qu'est-ce que tu penses de ce 11 partant?
Ben écoute, c'est sûr que c'est rapiécé un petit peu par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison et même lors du camp d'entraînement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bon, Rod Fanny, le gros de sa carrière, il a joué à droite. Depuis les dernières années, évidemment, avec la perte de vitesse due à l'âge, il s'est retrouvé en charnière centrale, s'est reconverti, mais il connaît bien le rôle de défenseur de couloir droit. Même chose pour Michael Petrasso, qui a commencé sa carrière comme ailier droit avant de reculer d'un cran, surtout en sélection canadienne. Donc, il n'est pas en terrain inconnu. Et pour terminer, Vargas, qui a déjà joué en pointe, qui est capable d'évoluer comme seul attaquant. Donc, écoute, c'est un mal pour un bien, parce que ça va permettre aussi à Rémi Garde d'exploiter la polyvalence de ces joueurs-là. Et Rod Fanny, je pense que le choix de le mettre à droite plutôt qu'en charnière centrale, c'est sûrement qu'il n'est pas encore au sommet de sa forme physique, de sa forme de match. Donc, au lieu de l'exposer tout de suite en charnière centrale, on lui donne de bonnes minutes à droite. Et Yuka Raitala, écoute, n'a pas brillé, hein, loin de là, à Columbus, au poste de défenseur central, ouais, aux côtés de Victor Cabrera. Mais quand même, c'est bien débrouillé dans le contexte, et je pense que Rémi Garde lui fait confiance dans le contexte d'aujourd'hui. Je pense que c'est un choix quand même sensé de la part du pilote montréalais. Je sais que, bon, ça en surprend plusieurs, mais je pense qu'avec ce qu'il a sous la main, il a su composer le meilleur 11 possible. Il faut rappeler que Mancosu, évidemment, est blessé aujourd'hui, n'est même pas sur le banc. Mesure préventive cette semaine, n'était pas à l'entraînement. Ouais. On nous a pas spécifié, oui, la nature de sa blessure. Mais en cas de besoin devant, on a Jackson Hamel et Oduro sur le banc qui peuvent remplacer Vargas en cas de besoin.
Oui, Oduro qui a failli faire son entrée la semaine dernière à Columbus et qui finalement n'a pas obtenu de minutes de jeu. Il est toujours là. On verra ce que ça va donner. Je me demande comment se sent Chris Duval aujourd'hui, lui qui débute un troisième match sur le banc. Ça a été un des bons guerriers de l'Impact la saison dernière, ouais, et jusqu'à maintenant, aucun départ. Rod Fanny, au moment où on se parle, passe devant lui. Est-ce que éventuellement Fanny va être glissé en charnière centrale et Raitala peut-être sur l'aile, je ne sais pas, et que ça va faire une place pour Duval, mais c'est sûr que ça va faire certains malheureux là.
Ben, c'est certain. Écoute, je pense que le message de l'entraîneur pour Duval est clair. Il faut travailler plus fort. Je pense que Rémi Garde et a toujours été très, très clair par rapport à ses attentes, surtout lors des entraînements. Ce n'est pas que disons, une occasion de répéter ou de pratiquer la tactique. C'est une occasion aussi de se démarquer de ses coéquipiers, qu'il y ait une compétition constante au sein du groupe. Et je pense que Chris Duval, malheureusement pour lui, n'a pas su démontrer ses qualités, du moins de partant au coach. Donc, encore du travail pour lui, en espérant que ça sache le motiver plutôt que le décourager là, au cours des prochaines semaines.
Oui, absolument. Du côté du Toronto FC, on a laissé sous-entendre qu'il était possible que quelques-uns des meilleurs joueurs ne soient pas du 11 partant, étant donné la surface synthétique ici. Mais la majorité des joueurs sont là. On ne fera pas de cadeau à l'Impact. Giovinco est là, Altidore est là, Michael Bradley aussi, Jonathan Osorio. En fait, il y a seulement Victor Vasquez qui n'est pas là. En fait, il n'est même pas habillé. Vasquez n'est pas à 100%.
Et Justin Morrow, il ne faut pas oublier. Justin Morrow, défenseur pilier de la défense torontoise, qui s'est blessé au Mexique la semaine dernière. Donc, lui non plus n'est pas là aujourd'hui, encore une fois. Comme je le disais, une opportunité de ce côté-là pour l'Impact.
Écoute, le Toronto FC connaît passablement de succès en Ligue des champions. Ils se sont qualifiés pour la demi-finale. Ils vont affronter Club América, et ce, à partir du 3 avril prochain. Je vais en parler un peu avec Richard Legendre tout à l'heure, mais Arcadio, nous qui avons vécu la Ligue des champions... écoute, quel spectacle entre Toronto FC.
Incroyable.
Cette semaine, et les Tigresses, ça s'est réglé dans les dernières minutes du match, encore une fois. Ouais. Et là, il y a une véritable possibilité de voir un club de la MLS remporter ce tournoi, étant donné que si jamais le Toronto FC et les New York Red Bulls remportent leur prochaine série, ils se retrouveraient en grande finale. Ce serait la première fois de l'histoire que deux clubs de la MLS se retrouvent en finale de la Ligue des champions. On sait qu'il n'y a jamais un club de la MLS qui a gagné cette compétition. L'Impact de Montréal a été probablement l'équipe la plus près.
Ouais, ben il y a eu Real Salt Lake, oui, il y a plusieurs années. Ce sont les deux seuls clubs MLS à s'être rendus à la finale. Mais c'est vrai que l'Impact a été très près là dans les faits. On se rappelle lors du match retour, lorsqu'il marque ce premier but ici même, on y a tous cru, on y a tous rêvé un petit peu.
Mais c'était par la Romero suite, qui avait marqué ce
voilà,
but.
Voilà, et on connaît l'histoire par la suite. Le club américain qui a mis enchaîné deuxième, troisième, quatrième vitesse, oui, et le rouleau compresseur est passé. Mais ça reste des souvenirs incroyables et ça serait une grande réussite pour la MLS d'aller enfin accrocher un titre en Ligue des champions. Ça serait un statement là, pour la CONCACAF.
Mais en regardant ce tournoi-là, là, bon sens qu'on se dit, on a hâte d'y retourner. On a hâte d'y retourner.
À chaque fois, c'est sûr. Et pas juste nous, parce que nous, on a la chance de le vivre de près. Oui. Mais les partisans, ces émotions-là, on en parle encore aujourd'hui comme si c'était hier. Puis j'en parle souvent avec les fans, puis ça revient là, dans la conversation. Le championnat canadien, l'importance d'aller accrocher ce résultat-là, cette qualification pour la Ligue des champions, parce qu'une fois que tu es dedans, tout est possible.
C'est ça.
Et ça fait trop longtemps que l'Impact de Montréal n'est pas de cette danse-là, de cette grande fête. Et il serait temps là, qu'on prenne les moyens nécessaires pour y arriver.
Et disons qu'on a facilité le tout. Là on est redevenu, on est revenu dans un modèle facile à suivre. Tu gagnes le championnat de ton pays et tu tombes immédiatement en Ligue des champions l'hiver suivant. Donc, il n'y a pas de phase de groupe. Tout de suite, on tombe en huitième de finale. Donc, c'est un format qui est très, très simple à suivre. Et tu te souviens à quel point ça avait été compliqué pour l'Impact de se concentrer sur les matchs MLS alors qu'ils étaient dans ce tourbillon de la Ligue des champions. Et c'est de ça qu'on espère que l'Impact va pouvoir profiter ici aujourd'hui, parce que le Toronto FC, ils ont la tête à la Ligue des champions, c'est sûr.
C'est normal. Surtout rendu en demi-finale, oui, tu y penses. C'est certain que là, heureusement pour eux, et c'est d'ailleurs pourquoi probablement Jovinko, Altidor, Bradley sont partants aujourd'hui, c'est qu'il y aura une pause de deux semaines après cette date MLS, et ça va permettre un petit peu à tout le monde de reposer les éléments, de prendre un peu de recul, et on recommence au début avril cette aventure CONCACAF du côté des Reds. Donc, c'est une pause, mais c'est vrai qu'ils ont la tête à ça. Et ils ont aussi six matchs dans les jambes depuis un mois, contrairement à l'Impact qui n'en a que deux.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'ai posé la question à Ignacio Piatti en début de semaine, parce que c'est drôle, pour ceux qui ont manqué ce petit bout-là. J'étais dans l'auto et j'amenais le petit à l'école avant de me rendre à la pratique de l'Impact. Et il me dit, selon toi, les joueurs de l'Impact vont prendre pour qui en demi-finale de la Ligue des champions? Le Toronto FC, le club qu'ils détestent, l'ennemi juré de la MLS, ou Club America qui les avait battus ici même devant plus de 60 000 spectateurs en finale de la Ligue des champions? J'ai dit, c'est une bonne question, fiston.
Bonne question.
Je vais la poser. Et Ignacio Piatti n'avait pas hésité. Il a dit, sans l'ombre d'un doute,
America.
Club America, on ne veut rien savoir de voir Toronto passer au prochain tour.
Ah, c'est clair.
Donc, je pense que la rivalité est plus forte en MLS, bien sûr, qu'en Ligue des champions, malgré cette défaite amère. On va faire une petite pause, Arcadio, et dans quelques instants, on va vous présenter une entrevue que j'ai effectuée avec le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal, Richard Legendre, à quelques heures, bien sûr, de ce premier match de la saison locale de l'Impact de Montréal 2018. On vous rappelle que vous écoutez le soccer de l'Impact sur une station Cogeco.